avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur les mauvaises filles. C'était l'expression utilisée autrefois, on parlait de filles perdues, bref, irrécupérables, malgré elles ou rebelles déclarées. Dans le catalogue des mauvaises filles qui jalonnent l'histoire, on trouve la prostituée bien sûr, la fille mère, l'avortée, la fugueuse, l'hystérique, la voleuse, puis plus tard la hippie, la punk, la délinquante. Leur révolte raconte quelque chose de la condition des femmes. Une partie d'entre elles s'est tournent parfois derrière les barreaux, même si les femmes sont ultra minoritaires dans la population carcérale. Nous allons en discuter avec l'historienne Véronique Blanchard. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez avec David Niger « Mauvaise fille, incorrigible et rebelle » qui rassemble des textes, des photos, des documents parfois stupéfiants. On n'a pas l'habitude de voir des dessins d'archives tout à fait méconnus. Arthur Voitu, vous êtes également avec nous dans le studio. Bonjour Arthur Voitu. Vous êtes sociologue à l'INJEP. L'INJEP, c'est l'Institut National de la Jeunesse et de l'éducation populaire. Et vous avez étudié, alors aujourd'hui, les différences de peine dans les tribunaux pour mineurs selon que l'on est un garçon ou une fille. Il faut rappeler, c'est quoi la place des femmes en général dans la population carcérale en France ?
Donc comme vous l'avez dit, en fait, elle est ultra minoritaire parmi la population carcérale. Donc les femmes sont, alors ça varie évidemment selon les années, mais comptent pour autour de 3% de la population carcérale.
Et la France n'est pas un cas isolé d'ailleurs.
Alors il y a des variations nationales. Selon les systèmes de justice, etc., il y a beaucoup plus de femmes incarcérées aux États-Unis par exemple.
Voilà. Ouais. Mais, néanmoins, elles restent toujours très minoritaires. Voilà. Et chez vous alors, dites-nous les voisins, les voisines, qui sont les mauvaises filles, sorcières ou go de nuit? Appelez-nous les voisins, les voisines pour nous en parler. 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux. Je vous lis le message d'Aurélie qui est à Yaoundé au Cameroun. La femme chez moi est associée au serpent. On pourrait croire que toutes les femmes ont mauvaise réputation. Changé à N'Djamena, dans la capitale tchadienne. Chez moi, c'est déplorable. Il y a un coin appelé Marché Mokolo. Là, vers 18h, il y a plein de jeunes qui vendent leurs fesses afin de trouver de quoi manger. Julien est à Bobo-Dioulasso, ville secondaire au Burkina Faso, deuxième ville du pays. Les conditions de vie des femmes les obligent à adopter des comportements étranges. La pauvreté, le manque d'emploi n'aide pas les filles. Appelez-nous maintenant, on a envie d'en discuter de vive voix avec nos invités. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise fille? On va donner la parole à des auditeurs qui nous appellent. Bonjour Diaby, vous êtes en ligne de Bamako au Mali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Diaby, bienvenue. Alors vous, comment vous voyez les mauvaises filles chez vous à Bamako?
Bon, en fait, il faut reconnaître que la femme doit symboliser d'abord la douceur. Le principe, il faut que ce principe soit acquis, au détriment du vagabondage. Chez nous, au Mali, les femmes qui fument, qui boivent l'alcool, qui s'habillent de façon osée, qui se droguent, celles qui sont homosexuelles, celles qui ne respectent pas leur mari, celles qui se prostituent, évidemment, sont mal vus par cette société malienne. Parce que cette société malienne a aussi est une référence en termes de culture. Donc la femme, c'est la soumission. Donc quand la femme sort de ce cadre, évidemment, elle est très mal vue, comme les exemples que je viens de citer.
Oui, c'est ça. Et alors vous, comment vous percevez ces femmes-là qui sortent du cadre de la soumission, comme vous le disiez?
Bon, je n'approuve pas. Je souhaiterais avoir une épouse soumise, une épouse qui me respecte. Mais le cas malien n'est pas différent des autres pays. C'est un cas universel aujourd'hui. Donc il va falloir éduquer ses filles depuis l'enfance pour qu'elles soient de bonnes filles demain.
Oui, c'est
l'éducation,
ça.
Il faut miser.
Sous-entendu pour vous, en fait, ces filles qui sortent du cadre, qui ont tous les mots à entendre votre liste extrêmement large, qui va du vagabondage au fait de fumer à l'homosexualité, le moins qu'on puisse dire, c'est que les défauts de ces mauvaises filles sont tout de même vus de manière extrêmement large. Ces défauts-là, finalement, c'est un défaut d'éducation pour vous?
Oui, c'est des défauts d'éducation, à ma connaissance. Mais aussi, il faut reconnaître qu'on a aussi un problème. Quand je prends le cas de la prostitution aujourd'hui, vous savez que le Mali est dans une situation difficile aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de stabilité économique sans stabilité politique. Tout le monde le sait. Donc ça a pu avoir des conséquences négatives sur le plan économique. Donc par conséquent, ça va amener certaines de nos filles, bien sûr, vers la prostitution.
C'est la pauvreté qui crée la déviance pour vous.
Oui, dans certains cas. Mais souvent, vous avez des familles bien aisées où quand même les enfants ou les filles sont hors de contrôle. Ça, c'est une réalité aussi.
Alors pour vous, le danger, c'est d'avoir une fille de ce type dans sa famille. C'est ça qui jette le déshonneur et l'opprobre?
Je n'ai pas compris, vous pouvez prendre votre question.
Le danger pour vous, c'est l'idée d'avoir une fille de ce type dans sa propre famille?
Oui, c'est vraiment un déshonneur, surtout quand on est au Mali. Voilà. Au Mali, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter.
On a bien compris, Diaby. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Bamako. Tiburce est en ligne également de Libreville au Gabon. Bonjour Tiburce.
Bonjour Emmanuel Baptiste. Bonjour à vos invités aussi.
Alors comment vous réagissez par rapport au témoignage de Diaby à Bamako?
Ce que j'ai écouté dire, en principe, ressemble un peu à ce que l'on vit actuellement au niveau des nouvelles villes au Gabon aussi.
C'est-à-dire?
Bon, ici, pour mon cas précis, je vais parler de gangs de filles qui s'adonnent à tout ce qu'il a cité là. Mais je vais sortir un phénomène précis, c'est celui des gangs de filles qui s'adonnent comme activité de violer des garçons, des hommes. Voilà.
Des filles qui violent des garçons à Libreville.
Exact. Comment cela se passe? En principe, dans la bande, il y a une qui s'appâte un homme à qui elle s'en guette en pas, et une fois qu'elle a isolé dans une chambre ou bien dans un lieu précis, les autres sortent et violentant le mec, elle l'oblige à avoir des relations sexuelles avec tout.
Mais c'est de l'ordre de la rumeur, du fantasme, ou ça a fait l'objet de condamnations pénales en justice, ce que vous nous racontez, Tiburce?
Le phénomène, il est assez récurrent, et les journaux en parlent beaucoup dans mon pays, au Gabon.
Donc ça a fait l'objet de condamnations en justice?
Condamnation, oui, il y a eu des cas d'arrestation, mais les suites souvent ne sont pas retransmises. Donc, en principe, est-ce que ceux qui sont souvent condamnés, dans la plupart des temps, les hommes qui subissent cela préfèrent se taire, se confier à des personnes particulières.
En tout cas, ces gangs au féminin inquiètent plus, à la limite, la population que les gangs au masculin, non? C'est vraiment la déviance suprême de la société?
Véritablement, parce qu'en principe, nous n'avions pas connu ça par le passé.
Oui.
Et de voir de plus en plus le fils prendre prévu à ce genre de choses, vraiment, cela inquiète la société.
Si même les filles s'y mettent, où va-t-on alors, hein? C'est bien ça, finalement, vous voulez nous dire.
Exactement.
Merci. Exactement. Merci beaucoup, Tiburce, de nous avoir appelé. Merci aussi à Diaby pour son témoignage à Bamako. Véronique Blanchard, alors vous qui avez travaillé sur les mauvaises filles dans l'histoire depuis le 19e siècle, hein, que vous évoquent ces témoignages?
Beaucoup de choses. C'est très intéressant. Je remercie les deux auditeurs. C'est une question, qu'est-ce qu'une mauvaise fille, que je posais toujours aux visiteurs qui venaient voir l'exposition Mauvaise fille, puisque avant l'ouvrage, il y a eu une exposition. C'était une exposition pédagogique avec de nombreux visiteurs qui sont venus la voir et la visiter. Et c'était toujours ma première question. Et beaucoup de choses qu'on a entendues là se répètent aujourd'hui en France métropolitaine. Pour une fille, de boire, de sortir tard le soir, d'avoir un certain nombre, par exemple, d'habitudes vestimentaires, peut poser problème à la société et peut faire considérer à la société que c'est une mauvaise fille. Diaby a dit des choses très importantes. Il me semble que nous reprenons dans le livre, elles sont mal vues. La question du regard nous a beaucoup occupés avec David Niger et aussi les concepteurs de l'exposition. C'est toute la question de la définition de la mauvaise fille est une question de représentation. Qu'est-ce qu'on considère comme être une bonne fille? Diaby a utilisé ce terme. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne éducation pour les filles? Et du coup, nous, notre idée, c'était de voir les différences avec les garçons. Qu'est-ce qu'un bon garçon versus qu'est-ce qu'une mauvaise fille? Et on voit, comme l'ont dit les auditeurs, que la question de la mauvaise fille est très différente de la question du bon ou du mauvais garçon.
Vous remarquerez que dans ce sac mauvaise fille, c'est vraiment un fourre-tout. C'est-à-dire qu'on y met aussi bien des actes tout à fait illicites, comme de commettre des violences à l'égard de son prochain, de la population, tout comme de commettre des actes qui ne sont en rien répréhensibles, comme de fumer, comme l'homosexualité qui n'est pas condamnable pénalement, heureusement, dans de très nombreux pays. Donc c'est l'idée, vraiment un mélange incroyable.
Bah oui, on reproche aux filles ce qu'elles sont et pas ce qu'elles font. Beaucoup plus ce qu'elles sont, leur comportement, le fait qu'elles ne respectent pas les normes imposées par la famille, les normes imposées par la société.
Contrairement aux hommes, contrairement aux garçons qui sont eux condamnés par rapport à ce qu'ils font.
Exactement. Ce sont les actes posés par les garçons dans des cadres de délinquance qui gênent ou dérangent la société. Ce sont des actes de comportement, donc de la déviance, qui gênent en ce qui concerne les filles. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on a essayé de décrire dans notre livre pour le 19e et le 20e siècle, qui est peut-être en France plus détendu pour le 21e siècle, on le voit en entendant les témoignages du Mali ou du Gabon, sont des réalités que vivent les jeunes filles aujourd'hui et maintenant sur une grande partie du territoire international.
Arthur Vuattu, alors vous travaillez surtout sur les condamnations en justice des mineurs.
Mais pas seulement, aussi sur les versants de protection, c'est-à-dire les mineurs qu'on protège, que la justice protège, puisque la justice elle est organisée sur une double dimension, à la fois de sanctions, de pénalisation des mineurs et de protection. Et moi j'ai travaillé sur ces deux dimensions-là, notamment pour essayer de voir un petit peu les circulations, puisqu'il y a des mineurs qui sont à la fois condamnés ou sanctionnés pour des déviances et en même temps qui peuvent être protégés sur d'autres aspects par la justice, etc. Juste, je voudrais revenir sur un aspect des interventions, c'est qu'effectivement, c'est une question de représentation. C'est-à-dire qu'on a ces représentations des mauvaises filles qui sont, on a vu, très diverses, effectivement, mais avec un certain nombre de points communs, et notamment le fait que si on regarde ces qualifications, les catégories de Tiburce et Diaby, par exemple, beaucoup de choses tournent autour du corps et de la sexualité. Et on ramène effectivement très souvent les filles à cette question du corps, de la sexualité. Effectivement, on les considère comme déviantes pour ce qu'elles sont, pour leur corps, pour les éventuelles déviances par rapport à un ordre du genre. C'est-à-dire au fait que globalement, le corps des filles doit être contrôlé dans une société, on pourrait dire, patriarcale. Et là, en l'occurrence, c'est des filles qui sont hors contrôle, ou en tout cas qui viennent perturber les normes de genre habituelles et donc perturber les hommes dans la société aussi.
Véronique Blanchard.
Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Arthur Vuattu.
Il faut cadenasser le corps des filles.
Exactement.
C'est ça, de tout temps.
Ce qui pose problème, ce qui fait peur, ce qui inquiète, ce qui menace, c'est le corps et la sexualité des jeunes filles. Et si elles prennent des libertés par rapport à ce corps et à cette sexualité, alors elles deviennent automatiquement des mauvaises filles. Mmh. C'est vraiment une des formes de définition de la mauvaise fille à travers le temps et à travers le territoire.
Appelez-nous, les voisins, les voisines. Dites-nous, qui sont ces mauvaises filles chez vous, dans votre pays? Que font-elles? Qu'y a-t-il à vos yeux de répréhension? En quoi dérange-t-elle la société? 33 1 84 22 71 71.
Don't burn, baby, burn. Shut your mouth, Miss Misery. I'll shoot you down. Just you wait and see. Nothing to give, she gon' take it all. Build you up, just to watch you fall. She'll say that she owns you. You own her, Miss Misery. She'll say you deserve her. Gotta shoot her down, Miss Misery.
Mi Miss Misery, Alex Hepburn. Qu'est-ce qu'une mauvaise fille chez vous, dans votre pays? Comment sont-elles perçues par la société? Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Véronique Blanchaille, vous publiez ce livre tout à fait passionnant et épatant, avec plein de photos du 19e siècle jusqu'à nos jours, enfin en tout cas jusqu'aux filles punk, hein, au punk à chien, une forme moderne du vagabondage et de la mauvaise fille. Alors on découvre quand même que dans le code civil de 1804, hein, tout enfant mineur insoumis, alors aussi bien les filles, les garçons, mais on comprend bien quand même à quel point ça s'adresse aux filles, peut être jeté dans les prisons de l'État ou les couvents des pénitentes, hein, donc là il s'agit bien tout de même de cadenasser le corps des filles, comme vous le disiez, sur une simple requête du père au tribunal civil. Hein. Jusqu'à 16 ans, c'est ça, hein, le père a droit de vie et de mort, en fait, sur son enfant et encore
jusqu'à
plus sur sa fille.
Jusqu'à 21 ans, ça s'appelle la correction paternelle, hein. Ça existe en France à partir de 1804 jusqu'à 1958.
Mais après 16 ans, quand même, le juge peut intervenir.
Il va pouvoir intervenir, mais plus tard, hein, on va lui donner, à partir du moment où on va mettre en place la justice des enfants en France, on va donner au juge des enfants le pouvoir de ne pas toujours suivre le pater familias. Mais pendant tout le 19e siècle, on peut, sur simple demande, parce qu'on a de graves mécontentements vis-à-vis de son enfant, et c'est souvent des graves mécontentements vis-à-vis de sa mauvaise fille.
C'est ça. Donc, en réalité, aucun motif réel n'est requis, en fait. Hein. Il suffit que le père dise « je suis mécontent de mon enfant ».
Exactement. L'indiscipline. Bah, beaucoup de choses que Diaby a dit tout à l'heure. Hein. Le fait que la jeune fille ne respecte pas les règles de la maison, le fait que la jeune fille sorte alors qu'on ne lui a pas donné l'autorisation, le fait, bien sûr, que la jeune fille peut-être fréquente des garçons. Tout ça sont des motifs suffisants pour les pères pour demander le placement de l'enfant, et la justice doit suivre. Mmh. Et donc, on va avoir des jeunes filles qui vont être placées dans des institutions religieuses, comme vous l'avez dit. Ça s'appelle des bons pasteurs, et ce seront les bons pasteurs qui auront le monopole de la prise en charge de ces mauvaises filles tout au long du 19e siècle et jusqu'à la fin des années 1970.
Mmh.
Hein,
c'est ça.
C'est une question très importante sur le contrôle des corps des filles et le contrôle social, puisque, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, il a tout à fait raison, beaucoup moins de filles et de femmes sont incarcérées que d'hommes et de garçons. Mais ce qui ne veut pas dire que l'emprise du contrôle social n'existe pas. Et il y a plein d'autres formes d'enfermement ou de contrôle.
C'est ça. Là,
que la prison.
C'était de l'enfermement, c'était pas de la prison, mais c'était la même chose.
Pas
en
de
fait.
Peine de prison.
Et là, on a 40% de la correction paternelle qui concerne des filles. Donc des filles qui sont enfermées pratiquement.
Qui vont être
parité avec les garçons.
Bon, exactement. Et avec des temps de placement, puisque là, on n'est pas dans les peines de prison, très longs, puisqu'on peut être placé à 10, 11, 12 ans, jusqu'à 21 ans. Donc, vous voyez à quel point, là, on va avoir des temps d'enfermement extrêmement longs, dans des lieux qui sont une sorte de synthèse entre le monastère et la prison.
Le but, c'est préserver l'honneur familial.
Oui, on va même appeler certaines de ces institutions, celles laïques qui appartiennent à l'État, des écoles de préservation. Tout est dans le titre.
Oui. Alors évidemment, Arthur Vuatou, ça a disparu. Hein. Il n'y a plus guère d'enfermement en dehors de l'enfermement prononcé par la justice des mineurs, c'est-à-dire l'incarcération classique. Hein.
Bon, alors maintenant, il y a quand même toute une palette de façon de placer les mineurs dans des structures qui ont été créées dans les années 2000, notamment lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Les centres fermés notamment, qui sont des structures un petit peu hybrides comme ça, mais qui en fait ressemblent très fort à de l'enfermement. Mais surtout,
où il y a plus de filles du coup dans ces centres fermés, où elles restent extrêmement
minoritaires. Par contre, ce qu'on observe, et c'est là-dessus que portait ma thèse en fait, c'est que si on regarde les sanctions qui sont prononcées, ou en tout cas la manière dont la justice se saisit des situations des filles et des garçons, il y a des formes d'enfermement, si on peut dire, très contemporaines, qui sont des suivis très longs. Et ce que disait Véronique sur les suivis qui peuvent être parfois très longs pour les filles et qui étaient très longs dans l'histoire, aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple, pour une fille qui arriverait au tribunal pour un vol ou quelque chose qui, chez un garçon, donnerait lieu à une peine très courte, une petite sanction, éventuellement, si c'est un vol assez grave, une petite peine de prison, va se transformer chez les filles en un suivi éducatif pendant 2-3 ans.
Ça
etc.
veut dire que cette fille, elle a une éducatrice ou un éducateur
sur
qui lui colle au basque,
exactement.
C'est ça et une assistante sociale, et qui vérifie qu'elle a un bon comportement,
voilà.
Finalement.
Et donc, quelque part, on n'a plus la justice du père de famille, comme dans l'histoire, mais on a un juge des enfants qui a énormément de pouvoir, et notamment le pouvoir de décider.
Véronique Blanchard et Arthur Vuatou, vous restez avec nous, les voisins et les voisines, appelez-nous pour nous dire qui sont les mauvaises filles chez vous, ce qui vous dérange aussi, ou comment devraient-elles davantage protéger. 33 1 84 22.
Bonjour, moi c'est Moussa Petit.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. Qui sont les mauvaises filles qui jalonnent l'histoire et les différentes sociétés aujourd'hui? Nous en discutons avec l'historienne Véronique Blanchard. Vous publiez « Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles ». Arthur Boitou, vous êtes sociologue à l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Vous avez surtout travaillé sur les différences filles-garçons dans le traitement judiciaire dans la justice des mineurs. Et chez vous, les voisins, dites-nous qui sont ces mauvaises filles, celles que les familles redoutent et que la société aide en général peu. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Vous êtes ravissant. Vous avez quel âge? On peut se revoir? Tu es très jeune, tu sais.
Oui, je sais. On dit souvent.
Votre fille mène une double vie, madame. Elle se prostitue.
Et vous avez quel âge, vraiment?
17 ans.
17 ans. Bel âge.
C'est le film Jeune et Jolie, un extrait du film de François Ozon qui a révélé Marine Vatch, une lycéenne des beaux quartiers qui se prostitue pour expérimenter une transgression dans un monde où finalement, à Paris, presque tout est permis. La mauvaise fille, finalement, continue d'inspirer les artistes encore aujourd'hui, non, Véronique Blanchard?
Bien sûr, hein, c'est une figure récurrente et extrêmement à la fois intrigante et passionnante. Hein, donc, ce qu'on a montré d'ailleurs dans le livre, hein, elle inspire à la fois les écrivains, les peintres et aujourd'hui le cinéma. Oui. Donc, il y a beaucoup de figures de mauvaises filles. On a répertorié une centaine de films de ces 40-50 dernières années autour de cette question de la mauvaise fille.
Pourquoi donc est-elle si mauvaise? Il y a quelque chose de mystérieux quand même. Hein,
Oui, et puis là, le jeune et joli, c'est la prostitution.
La prostitution, alors que rien ne l'y force.
En plus, elle est prostituée,
elle
alors
est
même
plus déviante.
Qu'elle n'est pas dans la misère et qu'elle ne fait pas forcément ça pour de l'argent. Ce qui est vraiment la figure de Lola que nous avons choisi de raconter dans Mauvaise fille, puisque Mauvaise fille, notre livre et l'exposition est composé de portraits composites qui sont écrits à partir d'archives, de documents, d'entretiens sociologiques, mais qui essayent d'organiser un portrait exemplaire ou symptomatique d'une des figures de la déviance pour les filles. Et la prostitution traverse bien sûr le 19e, le 20e et le 21e siècle. Et Lola, c'est un peu jeune et jolie.
Alors oui, qui est cette Lola?
Cette idée d'une jeune fille qui, de manière politique, va revendiquer le droit de pouvoir se prostituer, alors même que ce n'est pas forcément pour des questions d'argent. Peut-être plus une revendication de liberté totale par rapport à son corps, ce qui n'est pas le cas.
À quelle époque a-t-elle vécu, Lola?
On l'a fait vivre dans les années 80-90, hein. Ce qui n'est pas du tout le cas d'autres figures de la prostitution qui est Victoire, par exemple, ou des jeunes prostituées du 19e et du 20e siècle, du début du 20e siècle qu'on montre dans le livre, où là, c'est une prostitution beaucoup plus de subsistance, et on essaye de raconter aussi l'histoire des maisons closes, hein, qui a été une réalité de la prostitution et de la prostitution juvénile du 19e siècle, et la prostitution de rue du 20e siècle. Donc essayer comme ça de montrer à quel point la prostituée n'est pas une prostituée, mais qu'il y a multiples façons de se prostituer en France.
Ah, justement, un auditeur nous appelle de N'Djamena, Junior, qui a 27 ans. Bonjour Junior, vous êtes en ligne avec nous, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Vous êtes... Oui, bonjour Emmanuel, bonjour les invités.
Junior, justement, je crois que vous vouliez nous parler de ces filles qui se prostituent. Pour vous, il y a deux catégories de filles.
Oui, il y a deux catégories de filles, Emmanuel. Et surtout, il y a des filles des pauvres. Voilà, et il y a des filles des riches aussi. Certaines filles sont pauvres, c'est la pauvreté qui leur pousse d'aller faire des bêtises, surtout la prostitution, et puis qui fument des cigarettes, il y a des filles qui prennent de l'alcool, voilà, vous trouverez des filles à la rue, ce sont des filles des pauvres. Mmh. Et ces filles-là, elles n'ont pas de moyens, elles sont obligées d'aller à la rue pour chercher de l'argent pour leurs besoins. C'est-à-dire qu'acheter des habits, faire surtout des maquillages, beaucoup de choses, donc elles n'ont pas le choix d'aller faire la prostitution, et puis filmer, trouver de l'argent à faire leurs besoins. Et puis l'autre cas, je parle des filles des riches, leurs parents ont tout, hein, ils ont de l'argent, ils ont tout, elles ont des voitures. Finalement, ces genres de filles sont gâtées par leurs parents, elles sont gâtées par leur argent. Et puis elles ne savent pas quoi faire, maintenant elles sortent dans la rue et elles font la même chose avec les filles des pauvres. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ce que je ne comprends pas. Elles sortent, elles font leurs bêtises aussi, elles font de la prostitution, elles fument, elles prennent de l'alcool. Même domaine, même travail avec les filles des pauvres, ceux qui n'ont pas des ressources, bien sûr. Et après, vous savez, les conséquences, les maladies, les sida, oui. Et puis l'hépatite qui est là, et puis le tuberculose qui est là, après, finalement, voilà, et les filles tombent malades, mais vous savez les conséquences déjà.
Alors, finalement, sur ces filles riches que vous décrivez, le désœuvrement crée le même mal, les mêmes maux que la pauvreté, finalement, pour vous.
Oui, c'est en dehors de la pauvreté, vraiment. Ce sont des filles, je n'arrive même pas à les comprendre, malgré leur richesse, malgré leurs parents sont nobles, elles deviennent des rebelles, elles deviennent les filles les plus pures que les filles pauvres. Voilà, elles deviennent des rebelles, vraiment.
Voilà, des rebelles, oui. Des rebelles, d'autant plus qu'elles n'ont aucune raison d'être rebelles, en plus, hein, puisqu'elles n'ont, elles ne sont pas pauvres, donc elles ne sont pas poussées par la nécessité. Merci beaucoup, Junior, de nous avoir appelés. Ben voilà, un auditeur a prononcé le mot qui est presque partout dans votre livre, hein, les rebelles.
Qui est même le sous-titre de notre livre. C'est fondamental d'imaginer qu'une jeune fille qui ne respecte pas les règles, qui n'est pas sage, va être perçue comme une rebelle. Il est de l'ordre naturel, et je mets bien sûr plein de guillemets à ce naturel, qu'une jeune fille soit soumise, soit respectable, respecte les règles, et qu'elle ne se rebelle pas. Et toute l'idée du livre, c'est de montrer à quel point, malgré les normes, malgré le contrôle, les jeunes filles en France du 19e au 21e siècle vont trouver des espaces pour se rebeller. Mais se rebeller, ça veut dire vivre, ça veut dire être libre, ça veut dire être un peu à l'égal des garçons.
Oui, c'est ça. Sauf qu'on comprend beaucoup moins bien la rébellion des filles, hein, même encore aujourd'hui. Vous vous êtes intéressé, Arthur Vuattou, à vous, aux filles délinquantes, hein, par exemple les chefs de gang. Alors, est-ce que vous avez étudié le traitement par la justice de ces filles délinquantes qui sont nettement moins condamnées? Vous avez le sentiment qu'il y a une forme de clémence de la part de la justice quand ces filles commettent les mêmes actes que les garçons?
Alors en fait, ça revient à notre débat tout à l'heure, quand on disait au fond, oui, les filles sont moins condamnées à la prison, ça c'est sûr, on le voit dans les chiffres.
À acte égal.
À acte égal, mais on voit aussi qu'elles sont très souvent sanctionnées par la justice, au sens où elles sont suivies par la justice, des suivis qui sont parfois très lourds, c'est-à-dire qui incluent à la fois des éducateurs, ce qui peut être vu comme une mesure bienveillante, etc., mais qui sont aussi vus très souvent par des médecins, par des psychologues, des psychiatres. Un des éléments en fait qu'on voit très clairement quand on regarde le traitement par la justice des filles et des garçons, c'est que les dossiers des filles au tribunal sont beaucoup plus médicalisés, c'est-à-dire qu'on les oriente beaucoup plus facilement vers le soin. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très clairement aujourd'hui et je crois qu'on voyait déjà très largement par le passé.
Mais, ça nous ramène à la fin de 1880, Charcot et les femmes hystériques, c'est voilà. Ça hein, et du grec hétéros, c'est ça, l'utérus. Hein,
exactement.
Et c'est... Seule une femme peut être hystérique et pas un homme.
Ben voilà, et une fille rebelle, c'est une fille folle. C'est-à-dire que si vous êtes violente, si vous êtes rebelle, si vous ne respectez pas les règles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est beaucoup plus du côté de la folie qu'il va falloir réagir que du côté du contrôle et de l'enfermement.
Alors qu'un garçon, c'est juste la jeunesse finalement qui va passer.
C'est dans l'ordre des choses, disons.
C'est naturel. C'est la virilité. Hein. Un garçon violent répond, le mot qu'a utilisé tout à l'heure Arthur est tout à fait important, répond aux normes de genre. Un garçon violent, un garçon viril, c'est dans la norme, c'est ce qu'on attend d'un jeune adolescent. Une jeune fille violente, une jeune fille rebelle, elle est hors norme et elle est beaucoup plus traitée du côté de la folie et de la psychiatrie que du côté du carcéral et du pénal.
Mais alors tout de même, là, vous dites une des formes modernes de la rébellion aujourd'hui, une des formes de la mauvaise dysphasie, une des formes, hein, j'ai bien dit, c'est l'anorexique, la figure de l'anorexique, comme si c'était un peu le pendant, la symétrie de l'hystérique du professeur Charcot de la fin du 19e siècle, alors qu'aujourd'hui, les médecins s'accordent pour dire que c'est considéré comme une pathologie par le corps médical et pas comme une déviance. Vous avez placé la figure de l'anorexique dans ce livre sur les mauvaises filles? C'est tout de même étonnant.
Oui, je sais, long débat que nous avons eu à la fois au moment de la création de l'exposition et au moment de travailler sur cet ouvrage. C'est vraiment la continuité de ce que vous venez de dire, et dans notre esprit aujourd'hui, on a l'impression que l'hystérique est une défiante, plutôt une déviante, mais en fait elle est une malade, hein, pour le docteur Charcot, et elle est agie par son corps, et elle est dans l'impossibilité de sortir de ce corps. Ce qui est exactement les mêmes termes employés par la médecine pour l'anorexique. Donc certes, l'anorexique est vécue par la société comme une victime, mais une victime de son corps, hein, et totalement centrée sur ce corps, ce qui revient encore et toujours à dire qu'on ramène les jeunes filles à leur corps, et que selon les époques, une hystérique peut être considérée comme une mauvaise fille, et une anorexique peut être considérée comme une jeune fille qui ne va pas bien, mais qui, d'une certaine manière aussi, alors, n'est pas totalement dans la norme. Hein. Elle contrôle son corps, elle surcontrôle ce corps, et donc ça la ramène tout de même du côté de...
Et d'une manière qui fait scandale, en tout cas qui inquiète. En tout cas qui inquiète la société. Donc c'est ce pouvoir d'inquiéter la société qui fait d'elle une rebelle à vos yeux, c'est
exactement.
Ça, finalement.
Exactement, avec une forme de dérèglement autour de sa sexualité tout de même, hein, de son cycle, etc., qui est très menaçant là aussi pour l'ordre social.
Arthur Beattou, vous êtes intéressé aux jeunes Roms. Par exemple, si on prend le tribunal de Paris, hein, vous dites que plus de 50% de l'activité du tribunal à Paris est occupée par les arrestations de Roms mineurs, filles et garçons. Quelle est la spécificité de ces filles Roms dans la façon dont la justice les traite, hein?
Alors en fait, c'est effectivement un cas intéressant, c'est un cas particulier, si on peut dire. Donc dans ma thèse, je travaillais sur l'ensemble des mineurs, donc filles et garçons, au sein de deux tribunaux en France, et j'ai lu plus de 200 dossiers judiciaires, assisté à des audiences, etc., pour voir un petit peu comment la justice se construisait au quotidien, notamment en fonction des normes de genre qu'on a évoquées, c'est-à-dire comment on juge les filles, comment on juge les garçons, comment on écrit des dossiers éducatifs à leur sujet, etc.
Rappelons-le, les filles, hein, et les femmes en général, 3% de la population carcérale, hein, quand même, pour bien donner une idée de la proportion.
Et ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille sur cette question des jeunes filles roms, c'est de tomber au tribunal sur des dossiers judiciaires de ces jeunes filles, donc qui sont appelées en fait par les acteurs judiciaires les jeunes filles roumaines, qui ne sont pas toutes roumaines en fait, hein, qui appartiennent à la communauté rom, ou pas d'ailleurs, ou tziganes, mais en tout cas qui sont toutes un peu mises dans le même sac comme ça. Et dans ces dossiers de jeunes filles, donc, il y a dans tous les dossiers judiciaires de mineurs des pièces qui sont des pièces éducatives. C'est-à-dire que quand des mineurs arrivent au tribunal, les éducateurs recueillent leur situation, posent des questions sur leurs parents, sur leur contexte de vie, etc. Et dans les dossiers de ces jeunes filles roumaines, c'était un petit peu l'exception dans les dossiers que je lisais, il n'y avait quasiment aucun élément éducatif. C'est-à-dire que ces dossiers étaient quasiment vides. Il y avait seulement les jugements et éventuellement les procès verbaux de police, etc. Et donc, je suis allé voir du côté du traitement spécifique de ces mineurs-là, voir un petit peu ce qui se passait. Et en fait, ce qui m'a énormément frappé, c'est qu'en fait, c'est quasiment les seuls dossiers de jeunes filles qui sont incarcérés. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui, alors on n'a pas de chiffres parce qu'en France, les statistiques ethniques sont interdites, donc on ne peut pas mesurer la population carcérale en fonction des origines, mais ce que l'on voit quand on va observer ces prisons, et c'est ce que je fais notamment aujourd'hui dans une enquête, on voit que l'essentiel de la population féminine mineure en prison, ce sont ces jeunes filles roumaines. C'est d'ailleurs les seules à être finalement incarcérées.
Et qui sont incarcérées pour quel type de motif?
Alors elles sont incarcérées la plupart du temps pour des petits délits, notamment des délits de rue, c'est-à-dire des vols à l'arraché, des vols aux distributeurs bancaires, des délits qui peuvent donner lieu à des condamnations de prison pour des garçons dans la justice, mais qui, le plus souvent, ne donnerait pas lieu à des condamnations s'il s'agissait de jeunes filles non roms.
C'est ça, il y aurait plutôt un suivi éducatif qui, d'ailleurs, peut être très pesant pour les filles, mais en tout cas, ça ne serait pas une condamnation.
Exactement.
Mais alors pourquoi? Alors pourquoi les filles roms se retrouvent à cette triste parité avec les garçons, finalement?
Alors c'est la question que je me suis posée, puisque évidemment ça ne marchait plus, le schéma explicatif de ma thèse ne marchait plus, c'est-à-dire les décisions sont prises en fonction du genre des individus. Il fallait ajouter une autre hypothèse, et l'autre hypothèse, mais je ne suis pas le premier à le montrer, et ça a été montré dans beaucoup d'autres études, dans d'autres contextes nationaux également, c'est qu'il y a aussi une influence dans les décisions de justice, dans la manière de percevoir les trajectoires des mineurs, des normes qu'on pourrait appeler raciales, là encore avec beaucoup de guillemets, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire des catégories raciales qui sont établies par les acteurs, notamment quand des acteurs au tribunal parlent de jeunes filles roumaines, ils établissent une catégorie, ils mettent ces jeunes filles dans une catégorie, et ensuite ils créent un certain nombre de normes, de représentations, et notamment une représentation qui est que ces jeunes filles, elles sont insaisissables d'un point de vue éducatif. Elles vivent dans des bidonvilles, leurs parents ne sont jamais présents au tribunal, donc finalement la seule réponse qui peut leur être apportée, c'est la prison.
Et ce sont des éléments qu'on retrouve à travers l'histoire pour les années 50-60 en France. Les jeunes filles d'origine africaine sont considérées par les acteurs comme nettement plus violentes que les autres jeunes filles. Et donc, on va voir la violence des jeunes filles dites d'origine africaine dans les internats des années 50-60, alors qu'on ne perçoit absolument pas la violence des jeunes filles d'origine, là aussi on met plein de guillemets, française.
Et je voulais juste ajouter un élément, c'est qu'il ne faut pas croire non plus que les acteurs judiciaires sont au quotidien en train de discriminer des jeunes filles, que c'est uniquement leur représentation qui le font. Il y a une importance, je pense, du contexte politique. Et on voit notamment dans le cas de ces jeunes filles roumaines, qui a un contexte très fort depuis les années 2000, qui correspond d'ailleurs à peu près au moment où elles ont commencé à être incarcérées en masse, parmi l'ensemble des mineurs. C'est un moment, en tout cas, de discrimination de cette minorité en Europe, notamment avec l'entrée de la Bulgarie, de la Roumanie dans l'Union européenne, et le fait qu'aujourd'hui, on constate, par exemple, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne constatait dans une étude en 2009 que les Roms étaient la communauté la plus discriminée en Europe. Et il ne faut pas croire que la justice est totalement imperméable à ces normes-là, oui. et à ce contexte-là.
Mais si ce n'est que les filles n'échappent pas, par une clémence habituelle et culturelle, à des peines aussi lourdes que les garçons.
Mais il y a là, exactement ce que vient de dire Arthur, c'est que la question du genre est effacée par la question de l'origine.
Une auditrice nous appelle au 33 1 84 22 71 71. C'est Mariam qui est à Paris. Bonjour Mariam.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue chez 7 milliards de voisins. Vous souhaitez apporter un témoignage, une contribution à notre discussion sur ces mauvaises filles.
Oui, donc voilà, je suis française d'origine subsaharienne, plus précisément la Guinée. Mmh. Donc je voulais dire que les mauvaises filles chez nous, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. On te dira cette fille marche beaucoup, cette fille est bandite, point. Et vous savez, ça commence par le premier palier, le côté préventif. Il y aura l'excision.
Oui.
Pour éviter. Et ensuite, après l'excision, il y aura le côté répressif. Mais avant d'arriver à là, vous savez, avec les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, il n'y a plus moyen pour nos parents d'avoir ce contrôle-là sur nous. Ils ne savent pas ce qui se passe sur la toile, puisque c'est des gens qui ne manipulent pas forcément l'Internet.
Oui, bien sûr.
Donc c'est que à travers les on-dit que ça sera fait. Et donc à travers les on-dit, on passera au mariage précoce. Mmh. Le mariage précoce, c'est une manière de dire je renonce à ton éducation, je passe la main à cet homme qui, lui, va finir ton éducation, tu vas prendre tes responsabilités, faire des enfants, et par là ton corps va se déformer et tu ne seras plus désirable par d'autres hommes. Et c'est là où on arrive à l'adultère, du fait que tu as perdu ta virginité, et tu peux aller coucher avec d'autres hommes, et après il y a le sida et tout ce qui s'ensuit.
Ah oui, vous décrivez un cycle finalement où tout est fait pour cadenasser la femme et éviter la déviance, éviter qu'elle ne devienne une mauvaise fille et ne salisse l'honneur de la famille finalement. L'excision, ouais. Le mariage précoce, et alors ensuite l'adultère qui serait la conséquence, c'est ce que vous avez l'air de dire.
Voilà, exactement. Ouais.
Véronique Blanchard.
Oh bah c'est passionnant, hein. C'est vraiment très intéressant de pouvoir comparer ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire quand on est historien avec une vue plus large sur l'international. Les mots que Mariam a utilisés, tabou, hein, aussi rumeur. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, c'est des rumeurs sur Internet. Ouais. À l'époque, c'est des rumeurs de voisinage. La concierge qui a vu que la jeune fille sortait beaucoup ou qu'elle amenait des garçons à la maison. Donc la question des rumeurs, hein, sur la perception, et les étiquetages sont très importants.
Restez en ligne avec nous, Mariam. Un autre auditeur nous appelle. Aboubakar, vous êtes à Ankara, en Turquie, mais je crois que vous êtes un auditeur guinéen d'origine, Aboubakar.
Oui, c'est exact.
Oui.
Je me nomme Aboubacar Diallo, je suis guinéen de nationalité, je vis ici à Ankara, en Turquie.
Oui. Oui, on vous écoute. Alors justement, quel est votre regard sur les mauvaises filles, peut-être chez vous en Guinée ou en Turquie, je ne sais pas.
Je vais essayer d'intervenir sur les deux. En fait, la mauvaise fille en Guinée, je pense que c'est différent de ce qu'on appelle mauvaise fille en Turquie. Ce qui m'a amené à dire que ça varie d'une génération à une autre et d'une communauté à une autre. Chez moi en Guinée, ma maman n'aime par exemple pas voir une fille qui est tatouée, une fille qui boit ou qui est du genre gangster, qui porte des dreads et autres, ça l'énerve.
Ouais.
D'ailleurs, elle me compte souvent que c'est ce genre de fille, c'est une bonne copine, mais jamais une bonne femme.
Le genre gangster, oui, d'accord.
Ouais. Par contre, en Turquie, je vois que parce que toutes les filles fument, ça ne dérange à personne qu'une fille dise à son papa, papa, passe-moi une cigarette.
Ouais, parce que vous êtes dans une grande ville. Attendez, Aboubacar, vous êtes dans une grande ville, c'est pour ça.
Oui, je suis en Ankara, ouais.
Ouais.
Et du coup, ça m'amène à dire que ça varie d'une communauté à une autre. Et moi, ça ne me gêne pas d'embrasser une fille dans la rue, ça ne me dérange pas, mais devant ma maman, je risque de prendre une fessée, disons, comme ça, parce que... Voilà,
c'est ça, mais pas chez vous. Finalement, vous seriez assez séduit par ces filles genre gangster, toute proportion gardée, bien sûr, non, Aboubacar?
Disons, j'appelle ça du style. Pas
ah,
si
du
on
style.
On ne se drogue pas, on ne boit pas, j'appelle ça du style. Porter
ouais.
une culotte, un gros pantalon et autres, moi, ça ne me dérange pas.
Pour moi,
la personne, ce n'est pas la coque, c'est le moral.
Ouais. Merci à vous, Aboubacar, pour cette contribution, Mariam. Vous êtes d'accord ou pas? Jusqu'à un certain point, ça peut s'appeler en effet du style.
Oui. Donc,
du chien.
C'est un homme qui parle. Il faut être une femme pour savoir vraiment. Qu'est-ce qui nous... Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, la tenue vestimentaire, tout ça, ça ne choque plus. Vous allez maintenant en Afrique, dans les pays, les filles ont des mini-jupes sur leur dieu là-bas, elles vont en boîte de nuit. Après, la cigarette, ce n'est pas une culture subsaharienne pour les femmes, mais voilà, il y a la chicha maintenant, qu'on a remplacée par la cigarette. Et ça ne gêne pas un homme qu'une femme fume la chicha, mais c'est exactement la même chose que la cigarette.
Ouais. Dans les grandes villes, hein, il faut bien le préciser, tout ça, c'est vraiment...
C'est
l'urbanisation aussi, hein, qui a beaucoup lissé les comportements dans le monde entier, quelles que soient les différences culturelles. Un certain Yamour nous appelle de Londres au 33 1 84 22 71 71. C'est bien ça, Yamour?
Oui, bonjour, mais c'est une Yamour.
Pardon,
désolé, c'est pas évident.
Soyez la bienvenue.
Bonjour. Juste pour rassurer notre auditeur d'avant, parce que je suis sûre qu'aussi, en Turquie aussi, la mauvaise fille, c'est très cadré, donc ça ne change pas beaucoup autant qu'on le croirait d'une communauté à l'autre. Mais bon, moi justement, ce que je voulais dire, c'est que je voulais réagir aux tout premiers intervenants qui ont critiqué les mauvaises filles, et je voulais seulement souligner le fait que ce genre de discours n'est pas innocent, parce qu'il fait partie du contrôle social que l'on exerce sur ces filles. Et aussi, je voulais, enfin, quand on pense que le chemin, le droit chemin pour les femmes est tellement étroit que la déviance est très facile. Bien sûr que pour nous, on est toutes des mauvaises filles au fond. Quoi qu'on fasse, à un moment de notre vie, on va être réprimandée. Et honnêtement, dans un monde de méchants garçons, être une mauvaise fille est un honneur, je dirais.
Oh, quel beau témoignage, Yamour. Alors donc, vous êtes à certains moments dans votre vie forcément une mauvaise fille et vous le revendiquez, c'est bien cela finalement?
Oui, bien sûr. On est toutes des mauvaises filles.
Vous avez quel âge, Yamour?
Moi, j'ai 20 ans.
Ouais, d'accord.
Ouais. Et écoutez... aussi, par exemple, tout à l'heure, quand on a parlé de prostituées, ces auditeurs étaient très prêts à critiquer les prostituées, mais est-ce qu'ils sont prêts à arrêter d'acheter des femmes? Je ne sais pas. On critique les prostituées, jamais les clients.
Ouais, alors juste...
J'aimerais avoir un reportage sur les mauvais garçons de votre part aussi.
Ça viendra. Merci beaucoup, Yamour, de nous avoir rappelé. Également, merci à Mariam, merci à notre auditeur en Turquie. Avant de se quitter, je voudrais lire un document que vous publiez, Véronique Blanchard, dans votre livre sur les mauvaises filles. C'est un catalogue des prix d'amour. C'est en 1915. Alors, quand on dit que Facebook aujourd'hui est rempli de trucs porno, franchement, là, le catalogue, ça vaut le coup, hein, quand même. Ce sont tous les tarifs de Mademoiselle Marcel Lapompe, qui est donc prostituée ayant pignon sur rue à Paris, rue du Chat Noir en 1915. Et alors le catalogue des tarifs, c'est quand même assez édifiant. Baisage dans le lit, après minuit, ça coûte 50 centimes de plus. Glougloutage du poireau avec pression de la main, ne se retirant pas, tout dans la bouche. Enfin, c'est incroyable ce jeu. Où est-ce que vous avez retrouvé des documents pareils ?
Je ne livrerai pas toutes mes sources. Et beaucoup, on a fait un énorme travail avec les éditions textuelles que je tiens à remercier, hein, parce que l'iconographe a trouvé des merveilles, à la fois dans des archives privées et dans des archives publiques. Ouais. Là, il s'agissait
d'une archive privée. C'est sacrément cru, hein, quand
même. Ouais, là, c'est très cru. J'aimerais rebondir.
Je suis libre de faire commerce de mon corps, c'est ça aussi que ça veut dire
Oui, alors là, on est vraiment dans la prostitution la plus mercantile qui soit, dans les réseaux de prostitution des maisons closes, hein, et dans quelque chose de très sordide, hein, quand même. J'aimerais peut-être rebondir sur les mots d'amour qui me semblent, disons, pleines d'espérance. Oui, nous sommes toutes des mauvaises filles. Je le revendique moi aussi, même si je n'ai plus 20 ans. Oui, le chemin est étroit. Et oui, je crois que le féminisme a encore beaucoup à faire, hein, pour qu'on puisse percevoir les mauvaises filles de la même manière que les mauvais garçons, ouais. On n'y est pas.
Et pour vous, Arthur Vuattoux, jeune chercheur, sociologue, qui avait travaillé sur les différences de genre dans les peines de justice pour les mineurs, quelle serait votre conclusion sur cette voie étroite des mauvaises filles ?
La même que celle de Véronique Blanchard, mais également aussi le fait qu'on voit très clairement dans les paroles des auditeurs et des auditrices, là aussi, une démarcation très genrée, puisqu'on voit que seules les femmes nous parlent du contrôle sur les corps et de ces éventuels effets négatifs, etc., alors que les hommes nous parlent des catégories qu'eux-mêmes produisent sur ces filles. Voilà.
Ouais, et si du coup, c'est très parlant. Un de nos auditeurs reconnaissait que ces mauvaises filles peuvent exercer un pouvoir de séduction certain. Merci à vous tous, en tout cas. Véronique Blanchard, historienne, vous publiez Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles. Et Arthur Vuattoux, sociologue à l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Et merci à vous tous aussi pour vos extraordinaires témoignages. À demain.